que je vous accueille ici, puisque c'est grâce à l'enseignement que j'ai reçu, et en particulier avec vous, que j'exerce maintenant ce métier de professeur de philosophie ici à Saint-Plain. Donc les élèves, certains anciens élèves aussi, j'espère, reconnaîtront dans la copie quelque chose du modèle. Et en tout cas, je dois dire que la philosophie avec M. Dumont, c'est toujours, c'est nécessairement une rencontre, et une rencontre aussi avec soi-même, sa propre intériorité et le chemin d'existence qu'elle indique. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle matinée et je remercie beaucoup Jean-Noël d'être là ce matin. Il avait déjà une autre conférence qu'il a suspendue pour être avec nous aujourd'hui. Merci Jean-Noël.
Merci de m'accueillir. Il est évident que je n'allais pas me priver d'une rencontre qui est si amicale. J'ai l'impression, quand je viens ici, pratiquement de venir chez moi, si vous le permettez. Et donc, je n'aurais pas su refuser l'invitation qui m'a été faite à parler ce matin donc de la question de l'art. À travers une formulation qui est « création du sens et sens de la création ». Qu'est-ce qui m'a conduit à proposer cette formulation? J'espère que vous le comprendrez à la fin de la conférence. Mais je commencerai par faire remarquer, avec un certain étonnement, que nous assistons à une étrange sacralisation de l'art dans l'esprit de nos contemporains, au moment même où les artistes, qu'il faut, paraît-il, actuellement appeler créateurs, prétendent rejeter les formes académiques du musée, de l'œuvre, du piédestal, etc. Ce qui est bizarre, c'est que l'art est sacralisé au moment même où il se veut subversif, et même blasphématoire. C'est étrange. Par exemple, on a pu parler de sacrilège quand un individu a voulu briser à coups de marteau la trop célèbre fontaine de Duchamp, ou par exemple à Lyon, puisque je viens de Lyon, dans l'église Saint-Bonaventure, à l'occasion d'une manifestation quelconque d'art contemporain, un plasticien avait élevé dans la nef de l'église une colonne de poils à frire. Un paroissien irascible et sans doute passablement réactionnaire a renversé cette colonne de poils à frire. Et les journaux ont parlé de sacrilège. Le sacrilège ayant consisté non pas à élever une colonne de poils à frire dans une église, mais à la renverser. C'est étonnant. Ceci nous renvoie donc à une position contemporaine de l'art qui fait que, bien souvent, on a l'impression que les plasticiens, les artistes contemporains, adoptent à la fois le discours de l'insurrection et le discours de l'institution. Au fond, quand le salon des refusés devient le salon officiel, eh bien, toute parole est captée si je tiens simultanément le discours de l'institution et le discours de l'insurrection, j'ai de quoi clouer le bec à tout interlocuteur. Ce qui est au fond une position totalitaire. Au bout du compte. À quoi tient ce paradoxe d'une sacralisation de l'art? Rappelons que l'expérience du sacré, vous savez que sacré signifie intouchable, que ça désigne d'ailleurs aussi bien ce qui est noble que ce qui est vil, ce qui est intouchable, c'est aussi bien ce qui est ordurier que ce qui est pur. Sacer. Cette expérience du sacré, donc manifestée par l'interdiction du toucher, est celle de la limite de notre existence, quand la conscience rencontre une limite, comme par exemple la naissance, la mort, nous mettent devant cette limite qui n'est pas une borne, mais qui suggère ce qui est au-delà, qui nous invite à considérer ce qui est au-delà de cette limite, si bien que cette limite est à la fois une frontière et une ouverture, un seuil. L'expérience du sacré est celle d'un seuil. D'ailleurs, le seuil lui-même, bien souvent, est perçu comme sacré, tel que, rentrant dans un lieu, il faut que je me déchausse, ou que je me prosterne, ou que je me découvre, ou que je fasse des ablutions, mais passer d'un lieu à un autre, c'est ce que Mircea Eliade explique très bien dans « Le sacré et le profane », ça n'est pas simplement opérer un déplacement dans l'espace, mais c'est changer d'être même dans cette expérience du sacré. Or, la beauté est un tel seuil. Elle a d'ailleurs quelque chose à voir avec la naissance et la mort. Car la beauté, c'est la manifestation dans le sensible de la vie de l'esprit. Donc la beauté, c'est le sensible comme seuil entre le visible et l'invisible. Une perception qui me conduit au-delà de ce qui est perceptible. C'est pourquoi, d'ailleurs, on peut dire de la beauté qu'elle est signe, qu'elle fait signe, puisque le signe renvoie à ce qui est absent et donc invite l'esprit à se tourner au-delà. C'est bien ce que fait la beauté qui, normalement, ne m'invite pas à demeurer devant elle, mais à aller au-delà. La naissance, la mort, la beauté font donc naître la question du sens. De quoi est-ce le signe ? Percevoir les événements de sa vie comme des signes, percevoir le sensible comme un signe, c'est se demander qu'est-ce que cela veut dire, c'est-à-dire vers quoi suis-je invité à tourner mon regard. Pascal dit très bien, le signe porte absence et présence. Il est donc ce point de jonction du visible et de l'invisible que j'évoquais. Dire cela a du sens, c'est dire qu'on n'est pas devant une chose, on n'est pas devant un fait, mais que cet objet, cette réalité perceptible renvoie à autre chose que la liberté peut reconnaître. Cette réalité perceptible sollicite la liberté. Dire cela a du sens, cela veut dire que ce n'est pas simplement un caillou, mais c'est une statue, ce n'est pas simplement une tâche, mais c'est un tableau. Et le fait que je dise « cela est doté de sens », cela veut dire que la liberté y est engagée, la liberté en quelque sorte à répondre à cette réalité perceptible. Ainsi, pour prendre un exemple usé dans tous les sens du mot, une paire de godillots peut faire sens dans la mesure où elle fait signe vers la terre labourée, vers la fatigue du soir, vers la mélancolie de l'horizon, vers le travail du paysan, etc. Et donc, quand je regarde une paire de godillots et que j'y vois un signe, cela veut bien dire qu'elle renvoie à quelque chose qui n'est pas là. La chose n'est pas seulement ce qu'elle est. Elle est godillot et horizon d'un monde où se déploie la liberté. Il a donc fallu que Van Gogh, puisque vous avez reconnu l'allusion, il a donc fallu que Van Gogh voie ses godillots, comme il a fallu que Turner voie le brouillard pour, dans la beauté, nous donner à les voir autrement. Vous connaissez sans doute des imbéciles, moi j'en connais, et vous savez que l'imbécile, c'est celui qui dit « les choses sont ce qu'elles sont ». D'ailleurs, il est courageux, il appelle un chat un chat. Parfois, il précise « c'est comme ça et pas autrement ». L'imbécile se plaît à la répétition. Les choses sont ce qu'elles sont. Un signe, c'est précisément une chose qui est autre chose que ce qu'elle est. Cette pierre n'est pas une pierre. Je ne peux pas appeler un chat, car cette pierre est en même temps une femme, une statue, et a bien d'autres horizons que d'être simplement un caillou qui est là. Donc le signe nous fait sortir de la sotte répétition des choses, de la muette répétition des choses qui me condamnerait au silence, puisque celui qui appelle un chat est condamné à ne pas parler. À moins qu'il ne répète perpétuellement chat. Voilà ce qui, sans doute, nous conduit à comprendre comment l'expérience esthétique est une expérience du sacré, nous fait percevoir une exigence de sens, nous renvoie à notre liberté, et c'est sans doute ce qui autorise un certain nombre de conversations à dire que l'artiste est celui qui donne sens aux choses. Si je dis, voilà, il a fallu que Van Gogh voie les godillots et qu'il me donne à voir les godillots que je n'avais jamais vus, il a fallu que Turner voie le brouillard et qu'il me donne à voir le brouillard comme jamais je ne l'avais vu, on est tenté de dire que Van Gogh, Turner, donne sens au godillot ou au brouillard. Ça sera l'objet de mon développement. Cette expression convient-elle bien? Est-ce que véritablement le sens se crée? Et est-ce qu'il n'y a pas une surdétermination de la fonction de l'artiste à prétendre créer du sens, ce qui en ferait une œuvre démiurgique? Si c'est son art qui donne sens, alors on pourrait, en quelque sorte, voir naître le sens, voir apparaître le sens dans l'œuvre, dans la pâte de la peinture, dans la granulosité de la pierre, dans le grésillement du son. Il faudrait que l'on puisse surprendre, le moment où le sens advient. Et je crois que c'est toute la fascination qu'exercent sur nous certaines formes d'œuvres d'art que de nous donner à voir la genèse du sens, la genèse de la forme. C'est sans doute pourquoi actuellement nous avons tendance à préférer l'esquisse à l'œuvre achevée, car l'esquisse semble nous présenter la genèse de la forme et nous permettre de surprendre, comme nous voudrions surprendre le moment où quelqu'un meurt ou le moment où quelqu'un naît, de surprendre le moment où le sens advient, et l'artiste serait en quelque sorte celui qui nous permettrait de comprendre cette genèse. Et voilà pourquoi l'artiste peut être présenté comme créateur, si l'on dit qu'il donne du sens, si l'on dit qu'il crée un monde. Telle est la posture que l'artiste prend peu à peu en se présentant comme créateur. Il lui reviendrait la fonction sacrée de donner du sens comme on porte le feu. Or, l'enjeu est métaphysique, car si on donne du sens aux godillots, c'est qu'ils n'en ont pas. Si on donne du sens au monde, c'est qu'il n'en a pas. Si on donne du sens à sa vie, c'est qu'elle n'en a pas. Donc si on donne sens à une réalité, c'est qu'au fond, elle est elle-même absurde. Et voilà que l'art, en captant à son profit la jeunesse du sens, conduit à dire que le réel hors de lui n'a pas de sens. Et au lieu, du coup, d'être une invitation à voir autrement et mieux cette réalité, l'art se présente comme une lutte contre le silence du réel, contre la bêtise du réel, contre l'absurdité du réel. L'art serait alors la tentative de faire naître du sens contre l'absurdité du monde pour protester contre l'absurdité du monde. C'est ainsi, par exemple, que Henri Michaux, le poète, perçoit la fonction de la poésie comme justement une protestation contre cette mutité des choses. En particulier à travers la célèbre image, mais on est déjà dans une image, la célèbre image de l'iceberg qu'il prend pour évoquer à la fois le vide de ce monde, sa dureté, sa froideur, sa clôture sur soi. Et la poésie étant justement cette fonction qui arriverait à faire naître du sens là où le réel ne se donne que comme un iceberg. Bouddha glacé, dit Michaud, et qu'il, au fond, ne signifierait que l'absurdité du monde. Iceberg, iceberg, d'eau du Nord Atlantique, auguste Bouddha gelé sur les mers incontemplées, phare scintillant de la mort sans issue. Le cri éperdu du silence dure des siècles. Je relis ces quelques lignes qui pour nous sont importantes. Iceberg, iceberg, d'eau du Nord Atlantique, auguste Bouddha gelé sur les mers incontemplées, phare scintillant de la mort sans issue. Le cri éperdu du silence dure des siècles. C'est un fragment de La nuit remue d'Henri Michaux. Ainsi, seules les formes du langage ferait sens, mais si le monde est absurde, nos signes ne renvoient à rien. Si bien que, si nos signes ne renvoient à rien, si ce monde est absurde, les signes même que nous façonnons, les signes même que nous formulons, vont provoquer une sorte de nausée. Et voilà pourquoi, me semble-t-il, on peut comprendre que dans la création contemporaine, on voit souvent cette volonté précisément d'une œuvre qui ne fasse plus du tout signe, qui soit à son tour un iceberg, qui se suffise à elle-même. C'était le rêve de Mallarmé, d'une œuvre qui ne renvoie à rien d'autre qu'à elle-même. Une œuvre qui soit un pur objet, clos sur soi, dont je n'ai pas, qui ne m'invite pas à aller voir ce qu'il dit, qui ne m'invite pas à aller chercher, au-delà du poème, ce dont il parle. Vous connaissez la formule de Mallarmé, « aboli bibelot d'inanité sonore », ce mot étant, je vois que j'ai affaire à un public complice et cultivé, donc cette formule étant sa propre illustration, puisque « aboli bibelot d'inanité sonore » est lui-même l'illustration d'inanité sonore abolie. Et donc une œuvre qui ne renverrait à rien serait à son tour une chose. Et du coup, c'est en vain qu'on a distingué la chose et le signe. Un signe qui ne renverrait à rien est à son tour une chose. Et il en a, au fond, la clôture, la mutité, l'absurdité. Et du coup, il devient exaspérant. C'est ce que le plasticien Jean Stella évoque bien lorsqu'il dit « What you see is what you see ». Ce qui est une autre formule de « j'appelle un chat un chat ». Ce que vous voyez est ce que vous voyez. Alors, si bien que la tentative de faire une œuvre qui n'est pas de profondeur, car si elle a une profondeur, vous voyez, les œuvres de Rothko ont encore une certaine profondeur. S'il y avait une œuvre qui fut totalement lisse, qui ne présente aucune invitation à demeurer dans cette œuvre, au fond, elle serait à son tour un objet. Et l'on pourrait dire, en effet, « What you see is what you see ». Et c'est comme ça que Jean Stella expose des parallèles épipèdes parfaitement réguliers et parfaitement lisses, qui ne deviennent absolument plus des signes de quoi que ce soit. Et encore, et encore, et encore. Car vous êtes comme moi, quand vous voyez un parallèle épipède parfaitement lisse, au fond, vous pensez à un tombeau. Ah, alors du coup, il devient signe. Faudrait empêcher ça. Il faudrait obtenir une œuvre qui vraiment ne me donne rien à penser. What you see is what you see. J'appelle un chat un chat. Voilà la question, donc, peut-on créer du sens? Avec la question réciproque, y a-t-il du sens à se dire créateur? Revenons d'abord à ce que signifie, rapidement, l'idée de création. Pourquoi a-t-on besoin de la notion de création? Pourquoi dit-on que Dieu a créé, ou plutôt crée, le monde? Quel est l'enjeu d'une telle révélation? Créer se distingue de produire. On produit précisément un objet. Cet objet résulte d'un plan, d'un programme, d'une méthode. Il résulte de l'ajustement de parties matérielles distinctes. Et donc, l'objet est au bout d'un processus. Si bien que l'objet fabriqué est réductible aux conditions de sa production. Il est tellement réductible aux conditions de sa production que normalement, je peux le démonter et le remonter. Encore qu'avec ma mobylette, ça pose des problèmes. Mais normalement, si l'objet résulte précisément de l'ajustement de parties matérielles qui lui sont antérieures, il doit pouvoir échapper en quelque sorte au temps, puisqu'il peut être démonté, remonté, répété, reproduit, en chaîne, etc. Or, l'idée de création est nécessaire ici, précisément parce qu'elle signifie que ce monde n'est pas un objet. Il est un événement. Un objet est circonscrit, je le disais, dans des catégories qui sont celles de la causalité, du temps, de l'espace, de la quantité, de la qualité, etc. Si nous affirmons que Dieu a créé le monde ex nihilo, et ce qui distingue la création de la production, c'est que la création est ex nihilo. Si nous affirmons que Dieu a créé le monde ex nihilo, ça n'est pas pour dire qu'il est très costaud. C'est pour dire que ce monde ne résulte pas d'un jeu de causes antécédentes. Il n'est pas déterminé comme est déterminée la fabrication d'une chose. Et il est un événement parce que, précisément, il n'est pas reproductible, à la différence du produit qui, par essence, est reproductible. D'où, évidemment, la maladresse des métaphores déistes qui évoquent, par exemple, Dieu comme horloger ou comme architecte, qui sont des analogies qui reposent sur la production des choses, sur leur fabrication, sur l'ajustement des causes. Donc on ne produit que du déterminé. Si Dieu était un horloger, nous serions des mécaniques. Si Dieu était un horloger, nous serions des automates. Mais Dieu est créateur. Et la Bible ne recourt pas aux métaphores artisanales, ni d'ailleurs aux métaphores sexuelles. La Bible comprend cette création comme parole. Or, une parole, elle est adressée. Je ne parle que pour une liberté. Je ne parle qu'à une liberté. Je ne parle pas à mon chien. Enfin, quand quelqu'un parle à son chien, c'est mauvais signe. Et donc, parler, c'est précisément susciter la liberté de l'autre. L'idée de création est donc nécessaire, non pas pour rendre compte de l'existence des oiseaux et des arbres, comme le dit Pascal, mais l'idée de création est nécessaire pour rendre compte de l'existence de la liberté. Si le monde était fabriqué, il serait impossible d'y loger une liberté, je serais une roue dentée dans un mécanisme. Dire que le monde est créé, c'est tenter de rendre compte du fait qu'une liberté naît d'une parole. C'est d'ailleurs pour la même raison que l'on hésite ou que l'on devrait hésiter à dire que l'on fait un enfant. Puisque cette expression un peu grossière désignerait l'enfant comme un produit. Il est vrai qu'un certain nombre de nos contemporains semblent le penser ainsi, mais il est difficile de le penser simultanément comme un produit et comme un sujet libre. Voilà pourquoi le mot procréation est au moins plus juste et plus modeste. L'idée de création nous dit donc que ce monde est appelé à la liberté, bien loin d'être un iceberg hostile et silencieux, une parole s'y fait entendre. Et c'est bien ce que suggère la rencontre de la beauté. Voilà pourquoi d'ailleurs Camus, qui est un grand esprit, honnête, profond, dit que pour l'athée qu'il est, ou du moins qu'il était quand il a écrit cette page, la rencontre de la beauté est douloureuse. Parce que la rencontre de la beauté fait aussitôt surgir la conviction que ce monde ne peut pas être absurde. Et celui qui maintiendrait la conviction intérieure que ce monde est absurde, qu'il ne fait signe vers rien, qu'aucune présence n'y est lisible, l'expérience de la beauté serait pour lui douloureuse, tragique. Et la tentation serait grande de faire taire cette beauté, de la défigurer, de la souiller. C'est d'ailleurs ce que dit Rimbaud. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. Sur tout espoir pour l'étrangler, j'ai fait le bon sourd de la bête féroce. C'est le début de Une saison en enfer, où l'on voit que l'image baudelairienne de la beauté marmoréenne, tout ça, très compassée, est beaucoup plus profondément pensée par Rimbaud, qui comprend ce qu'il y a de douloureux, d'insupportable pour la beauté, si elle est rencontrée dans un monde où j'ai un sentiment violent du mal, de l'absurde. La beauté est alors intolérable, amère. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Et voilà pourquoi un bon nombre de nos œuvres tentent finalement d'injurier la beauté, de la souiller, de la lacérer, parce que précisément, elle serait insupportable. L'idée de création, non seulement renvoie au fait que, à la différence de la production, elle suscite une liberté, mais cette création est unique. On peut, je le disais, reproduire un objet, on ne peut pas reproduire du sens. Le sens, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Les idées, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Et on le sait bien d'ailleurs dans le comique, car Bergson nous l'a expliqué dans le rire, un des ressorts les plus faciles et les plus efficaces du comique, c'est la répétition. Et pourquoi ? Parce que la répétition, précisément, mécanise le geste qui, normalement, était un élan de la liberté. La répétition fait apparaître la marionnette, la répétition fait apparaître la mécanique, là où on voyait, où l'on croyait voir un surgissement. Tous les enfants ont joué à ça. Je vous invite à ne pas y jouer pendant que je parle. Le jeu du perroquet est exaspérant et efficace. Ça marche à tous les coups. Il suffit de répéter une phrase pour qu'elle devienne un aboli bibelot d'inanité sonore. Et la chute de la phrase dans le son la rend complètement opaque et absurde. Et le comique, et voilà pourquoi d'ailleurs le comique a quelque chose à voir avec le désespoir, puisque il est l'avènement d'une absurdité sous-jacente à toute tentative d'énonciation, à toute prise de risque d'un sujet qui s'aventure à dire quelque chose sans trop savoir comment sa phrase va finir, alors que celui qui répète, évidemment, il connaît la fin, lui, et du coup, la phrase devient une production. Répéter, donc la phrase, comme l'œuvre d'ailleurs, s'enlise dans des sonorités qui ne font signe vers rien. Dire que la création est unique, c'est bien, comme je le disais tout à l'heure, revenir à l'idée qu'elle est un événement. Un objet autorise la reproduction, la création est impossible à reproduire. Voilà pourquoi, tout à l'heure, je me suis repris, et plutôt que de dire que Dieu a créé le monde, il convient peut-être mieux de dire Dieu crée le monde. Dieu a créé le monde inscrirait l'affirmation dans un processus historique, un enchaînement de causes et d'effets tel que l'on pourrait remonter d'effets en cause jusque à une cause première, et si Dieu est une cause première, nous sommes des marionnettes. Et donc il convient davantage, me semble-t-il, de dire Dieu crée le monde, ce qui souligne, avec les moyens qui sont les nôtres dans la langue, le fait que cette création n'est compréhensible que comme un événement, et que comme un événement présent, un événement en train de se dérouler en nous. Dans la production technique, dont la technique est la déclinaison, dans la production, le rapport de la forme et de la matière est une domination, un acte de violence par lequel la matière est assujettie, arraisonnée par la forme, est de telle sorte que la production appose sur cette matière la marque du fabrique, la marque du producteur. Telle n'est pas justement la création, qui est parole, c'est-à-dire qui sollicite une réponse. Que Dieu crée par la parole signifie que ce monde est en même temps un appel qu'il sollicite une réponse et qu'il me dit en quelque sorte « viens ». Voilà, résumé de manière rapide, les enjeux de l'idée de théologique de création qui revient à dire au fond que dans la création, l'absolu suscite son autre. Se donne un vis-à-vis. Et alors, c'est cette pensée de la création que les ambitions de l'art vont tenter d'assumer. Dans un deuxième temps, après avoir vu quelques aspects de l'idée de création, comment a-t-on pu en venir à parler de création à propos de l'art? Voilà ce que voudrait l'artiste créateur, une œuvre qui ne doive rien à ce qui lui est antérieur, une œuvre qui soit un événement, une œuvre qui soit unique. C'est d'ailleurs ainsi que l'on distingue aisément, il y a une page très célèbre que vous connaissez certainement d'Alain sur la question, c'est ainsi que l'on peut distinguer justement le travail de l'artiste et le travail de l'ingénieur ou de l'artisan du mécanicien. C'est que dans le travail de l'artisan, tout doit être conforme à un plan, donc il produit un objet. Dans l'œuvre de l'artiste, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des hasards, il peut y avoir une grâce qui surgisse indépendamment du plan. Une œuvre qui serait totalement conforme à son plan serait une œuvre ratée. Comme Merleau-Ponty dit que un geste purement volontaire est un geste raté. Pour qu'un geste soit significatif, il faut précisément qu'il ne soit pas purement volontaire. Il faut qu'il y ait en lui une grâce qui passe, un hasard qui passe, une spontanéité qui s'exprime. Et c'est pourquoi aussi l'art, à la différence de la technique, tente de saisir le lien de la matière et de la forme, l'inséparabilité de la matière et de la forme. Je disais que le rapport dans la production, le rapport de la forme et de la matière est un emboutissement, est une violence. Il faut que la matière soit assujettie à la forme. Dans l'œuvre d'art, on tente de saisir, justement, j'évoquais l'esquisse, cette unité de la matière et de la forme, c'est-à-dire, comme le dit Faucillon, la destination matérielle de la forme et la destination formelle de la matière. Je peux reproduire le David de Michel-Ange en plastique à des milliers d'exemplaires. Et le David de Michel-Ange reproduit en plastique à des milliers d'exemplaires, c'est une production technique qui repose d'ailleurs sur la différence de la matière et de la forme. Je peux emboutir du plastique pour en faire un David. Si Michel-Ange a vu surgir le David du bloc de marbre qui lui était donné, qui d'ailleurs fait que ce David a cette tenue dégingandée car le bloc de marbre était, paraît-il, trop petit pour y tenir un David de Michel-Ange. Donc si David a vu surgir Michel-Ange a vu surgir, peut-être que David a vu surgir Michel-Ange aussi, si Michel-Ange donc a vu surgir David, c'est précisément parce qu'il ne pouvait pas être ailleurs que dans cette pierre et qu'il ne peut pas être autrement que dans cette pierre. C'est pourquoi la question de l'œuvre d'art à l'heure de la reproduction est une question qui se pose parce que, justement, cela assimile l'œuvre à l'objet ou rend possible l'assimilation de l'œuvre à l'objet. Or, il faut se rappeler que l'art est une notion très récente et que la posture de l'artiste est également très récente. On peut aisément dater cette émergence de l'art de la Renaissance. Nos musées, qui prétendent engranger de l'art, font rentrer dans leurs vitrines ou sur leur piédestal des objets qui n'étaient pas des œuvres d'art. Le bouclier océanien, le masque africain, le chapiteau du Moyen-Âge ne sont pas des œuvres d'art, ne sont pas façonnés par des gens qui ont pris des postures d'artistes. Ils n'ont d'ailleurs pas songé à signer. Et ils ne songeaient pas du tout qu'ils s'exprimaient. et qu'ils faisaient valoir leur personnalité, leur état d'âme, etc., quand ça n'est pas l'état de leur corps aux pieds, car on a bien souvent l'impression que des artistes voudraient nous faire part de, non seulement de leur état d'âme, mais de leur état de santé. C'est à la Renaissance donc apparaît cette figure de l'artiste comme rival de Dieu. Vasari, le célèbre biographe des peintres de la Renaissance, dit « Ils ont vraiment une grande dette de reconnaissance envers le ciel et la nature. Ceux qui enfantent sans peine des œuvres d'une grâce que d'autres ne peuvent obtenir ni par le travail, ni par l'imitation. » Je relis cette phrase que j'ai trouvée, cette citation de Vasari, dans un livre que je recommande aux étudiants qui auraient l'esthétique au programme. Il est un peu cher, faites-le offrir pour Noël. Un livre de Pommier qui s'appelle « Comment l'art devint l'art », qui est un excellent ouvrage qui montre comment l'idée d'art est née à la Renaissance, et a fortiori l'idée de l'artiste, la signature de l'artiste, et a fortiori l'autoportrait. Vous savez, on commence à voir apparaître des autoportraits de peintres qui se cachent parmi les bergers autour de la crèche. Puis peu à peu, l'autoportrait grandit. On enlève le petit Jésus, on enlève la Sainte Vierge, et le berger tout d'un coup est devenu un peintre, et le peintre prend la pose et s'expose lui-même, ayant pris en quelque sorte la place même de Dieu. Le sommet de l'ambiguïté étant l'indépassable autoportrait de Dürer. L'autoportrait de Dürer en Christ résume toute cette aventure. Avec l'ambiguïté de l'œuvre propre à Dürer. Parce que l'autoportrait de Dürer en Christ peut dire « c'est moi l'artiste qui prend la place du sacré, qui suis au fond le médiateur du sacré ». Et par là même, moi, artiste, j'ai une fonction christique. Ou alors, il peut être, et c'est possible, car Dürer était un homme profond et pieux, au lieu d'être la manifestation d'un orgueil de l'artiste qui évince le médiateur pour se présenter lui-même comme le médiateur, c'est peut-être une démarche d'humilité qui efface l'artiste derrière le Christ. Je vous laisse le choix, l'œuvre nous laisse le choix. Est-ce le Christ qui est effacé par l'artiste? Est-ce l'artiste qui est effacé par le Christ? En tout cas, nous sommes ici, avec cet autoportrait de Dürer, dans un moment symptomatique, dans un moment clé de l'appropriation de la fonction créatrice par celui que désormais on appellera l'artiste. Alors, si bien que c'est à partir de là que l'on parlera de don, de génie, d'inspiration, toutes ces notions de don, de génie, d'inspiration, ayant pour but de tenter de cerner la naissance du sens dans un geste. Si le sens ne naît pas de l'ajustement de causes antérieures, si le sens ne naît pas à l'occasion d'une production, alors l'avènement du sens est une sorte de miracle. Un saut. Comment se fait-il que tout d'un coup, un visage surgisse de mon bloc de marbre? Et j'ai l'impression, quand ce visage surgit, comme le dit Alain, que c'est l'esprit dans la chose, et que l'esprit se manifeste dans cette chose, et que j'aurais été l'agent involontaire et inconscient d'une manifestation du sens, puisque la genèse du sens que nous tentons d'appréhender ne nous apparaît justement que sous la forme d'un sceau. Mais enfin, cette création, donc, de la part des artistes de la Renaissance et des plus grands comme Dürer, reste un écho du divin, avec cette ambiguïté, reste une contemplation de ce monde. Mais qu'en est-il, c'est ce que je disais en introduction, qu'en est-il pour celui qui voit ce monde comme absurde? À quoi bon ce miracle d'une parole inédite? Le sens peut-il naître du non-sens? Telle est l'énigme de l'art. Le sens peut-il naître du non-sens? Par addition, par hasard, par conjonction d'atomes, coagulation d'atomes. Telle est l'énigme de l'art exercée sous un ciel vide, quand l'art est exercé sous un ciel vide. Vous le voyez, cette question esthétique est en fait une question métaphysique. Le sens peut-il naître du non-sens? Dans cette troisième partie, je reviendrai donc sur les tentatives de l'esthétique contemporaine de surprendre le moment où le sens naît. Je balance un pot de peinture. Est-ce que j'arriverai à surprendre le moment où le sens naît? C'est toutes les tentatives, par exemple, des surréalistes. Le jeu du cadavre exquis, les comptes rendus oniriques, tout ce qui tente de faire naître l'œuvre du hasard ou du mécanique, tente justement de surprendre la naissance, de surprendre la genèse du sens à partir du non-sens. Quelle est, en effet, la différence entre un bruit et une musique? Un bruit est un son précédé d'une cause. Une musique est un son précédé d'un son. Un bruit, c'est un son précédé d'une cause. Ceci est un bruit. Excusez-moi de vous avoir réveillé. Il est précédé d'une cause. Si je veux connaître, si je veux interpréter ce bruit, il faudra que je remonte à une cause qui est le poids et les muscles de ma main. Une musique, c'est un son précédé d'un son. Ça, c'est une musique. Comment un son précédé d'un son devient-il musique? Voilà l'énigme. Quelle est la différence entre une tache et une image? Une tache, c'est une surface colorée précédée d'une cause. Une image, c'est une surface colorée précédée d'une surface colorée. Ce que l'on voit bien dans Miro. Donc je fais tomber du vin sur la nappe, ça ne fait pas un Miro. C'est une surface colorée précédée d'une cause. Si en revanche je mets en un certain ordre, car il faut bien qu'il y ait un ordre, deux tâches successives, l'une et l'autre tâche se répondent, elles composent une phrase, un énoncé. Quelle est la différence entre un cri et un mot? Un cri est une voix précédée d'une cause. J'ai reçu un coup de couteau, je crie. Un mot, c'est une voix précédée d'une voix. Car un mot seul, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas appeler un chat un chat. Les mots ne prennent sens que dans leur relation, que dans leur succession. Et c'est ce qu'il faudrait arriver à surprendre. Voilà, à ce moment où le sens naît. Vous voyez, le moment où la forme naît de l'informe. On aimerait bien. Il y a quelque chose de voyeur dans cette volonté de saisir l'instant où émerge la signification. Et il y a quelque chose de réducteur et de profondément athée, d'essentiellement athée, dans la volonté de faire surgir le sens du non-sens, dans la volonté de faire surgir le sens du hasard. Alors, nos œuvres explorent avec anxiété, dans l'immanence de la tâche, dans l'immanence de la matière, le moment où va émerger la signification. Car un monde athée est un monde sans autre. L'absolu a fait surgir son autre. Sans Dieu, notre existence est sans altérité. Nous sommes donc enfermés dans la répétition. Aïe ! Nous sommes enfermés dans l'immanence, puisque l'absurde, c'est la répétition. Et voilà pourquoi nos œuvres examinent anxieusement le moment où le bruit devient musique, où la tâche devient image, où la voix devient mot, où la pierre devient statue, etc. Et en espérant que cela pourra surgir du hasard, un monde sans altérité va attendre de l'esthétique qu'elle nous donne une sorte d'altérité de substitution. De fausse fenêtre, peut-être. Et l'art inventé par les artistes n'est peut-être que cette fausse fenêtre qui donne dans l'immanence. Au fond, c'est les tableaux de Magritte. On ne sort pas de l'immanence. Les fenêtres nous réenferment dans l'immanence, alors même qu'elles auraient normalement pour vocation de nous en faire sortir. Ceci est bien exprimé par Marcel Gauchet dans une page que je me permets aussi de recommander à ceux qui auraient par hasard la question de l'esthétique au programme, s'il y en avait dans la pièce, qui est dans la dernière partie du Désenchantement du monde de Marcel Gauchet. Dans le Désenchantement du monde, Marcel Gauchet explique, vous savez, c'est la thèse qui est maintenant bien connue, répétée dans tous les lieux de culture, que le christianisme est la religion de la sortie de la religion, qu'il faut que nous apprêtions à vivre dans un monde dans lequel il n'y a pas de religion, etc. Et c'est un livre profond et intelligent que celui de Marcel Gauchet. Et alors, à la fin, quand même, du livre, Marcel Gauchet se dit « Mais quel serait diable, si j'ose dire, pour nous, les figures de l'altérité ?» Et il fait l'hypothèse qu'on pourrait en trouver dans l'esthétique. Le sacré, dit-il, c'est l'expérience. Non, il ne faut pas que j'invente. Méfiez-vous, quand je lis un texte, en général, j'en invente la moitié. Mais donc là, je vais essayer d'être fidèle. Le sacré, c'est spécifiquement la présence de l'absence. Pourrait-on dire la manifestation sensible et tangible de ce qui normalement est dérobé au sens. La manifestation sensible de ce qui normalement est dérobé au sens, c'est ainsi que j'ai défini le signe au départ de ce petit exposé. Et l'art, au sens spécifique où nous autres modernes le comprenons, c'est la continuation du sacré par d'autres moyens. Quand les dieux désertent le monde, quand ils cessent de venir y signifier leur altérité, c'est le monde lui-même qui se met à nous apparaître autre, à révéler une profondeur imaginaire. L'imaginaire, c'est spirituel du pauvre. À révéler une profondeur imaginaire qui devient l'objet d'une quête spatiale dotée de sa fin en elle-même et ne renvoyant qu'à elle-même. C'est que tout simplement, l'appréhension imaginaire du réel qui constituait le support anthropologique de l'activité religieuse, se met à fonctionner pour elle-même indépendamment des anciens contenus, devient but en soi ce qui n'était que le moyen dans le cadre d'une compréhension générale. Voilà donc pourquoi, dit-il plus loin, l'art contemporain donc cherche à voir surgir l'autre dans le même, dans la nauséeuse répétition du même. Mais on triche quand on croit faire surgir le sens du hasard. On triche quand on se dit tout d'un coup « Ah ! Coup de chance, la signification est sortie. » Car au fond, le sens est toujours déjà là. Nous avons retenu des jeux surréalistes le mot « cadavre exquis ». Vous connaissez donc le jeu du cadavre exquis. Pourquoi avons-nous retenu ce mot du cadavre exquis? Car manque de chance, ça aurait pu être parapluie gris. Mais si ça avait été parapluie gris, on ne l'aurait pas retenu. On a retenu cadavre exquis. Et on a dit coup de peau, ça a du sens. Mais ce n'est pas du tout que le sens soit issu du hasard, c'est que précisément, il était déjà là. Et si à force de jouer de sonorité et de faire vous arrivez à sortir un mot, c'est que le mot est déjà là. On ne crée pas du sens, on le reconnaît. Et c'est pourquoi la réflexion esthétique nous permet vraiment d'entrer dans le champ de la métaphysique. Car la véritable preuve de l'existence de Dieu, ce n'est pas l'existence des choses, c'est l'existence du sens. Et l'événement qui fait que ce sens ne peut pas être reconduit aux circonstances qui l'ont précédé. Au fond, et j'emprunte cette image à Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception, au fond, le sens surgit pour nous exactement comme surgit un visage dans une tapisserie. Et quand tout d'un coup, vous voyez surgir un visage dans une tapisserie, vous voyez la genèse d'une forme qui se recompose autrement qu'elle ne se serait recomposée, et cette genèse, vous ne pouvez pas la reproduire. Vous peinerez à retrouver le visage dans la tapisserie et vous ne le retrouverez pas partie par partie, le visage. Il faudra qu'il ressurgisse tout d'un coup. Vous n'aurez pas de processus qui vous permettra de retrouver le visage. Dire, tiens, il me semble que c'était dans une orchidée qui, etc. Il faut se remettre dans la disposition, se remettre par tout son corps, par toute son attention, sa disponibilité, dans la disposition qui était celle que nous avions au moment où a surgi ce visage et qui s'est donnée en une totalité indécomposable. L'objet technique est décomposable, l'événement est indécomposable. Et si le sens est événement, c'est précisément parce qu'il ne peut pas être décomposé dans ces différents moments, dans ces différents processus. La raison la plus assurée de l'existence de Dieu, ce n'est donc pas l'existence des choses, mais c'est l'existence du sens, d'où le côté sacrilège, au fond, la volonté de mettre la main sur le moment où ce sens advient, au lieu de le recueillir et d'y répondre avec reconnaissance. Au lieu de reconnaître le sens, vouloir le créer, c'est une révolte, c'est un blasphème, c'est un sacrilège. Le sens sollicite une réponse. Et je ne devrais pas pouvoir tenter de me mettre à la place de au point de jonction de cette absence et de cette présence qu'est le signe. On ne peut pas donner sens à ce qui n'en a pas. Et on ne peut pas dire que l'on est créateur de sens. Nos journaux sont remplis de tests. Es-tu un bon copain? Bon, enfin, j'en passe parce qu'il y en a de plus vulgaires. Je vous en propose un. Es-tu athée? Es-tu croyant? C'est facile. je te mets deux énoncés, je donne un sens à ma vie, je reconnais un sens à ma vie. Si tu coches « je donne un sens à ma vie », tu es athée. Si tu coches « je reconnais un sens à ma vie », tu es croyant. Ce test vous était offert par Biba. Qui d'ailleurs, et c'est bien là que nous en sommes, qui prétend créer du sens éprouvera bientôt la nausée et l'exaspération de ne le pas pouvoir. Ce qui prétend créer du sens éprouvera bientôt la nausée et l'exaspération de se heurter au silence du monde évoqué dans les icebergs que j'ai lus au début. Revenons alors au sens de la création, de la parole, toujours déjà là, d'où naît l'altérité. À proprement parler, comme le disent Descartes et Claude Bruère, à proprement parler, c'est l'homme qui est créé. Et l'idée de création a vraiment pour sens de rendre compte du surgissement d'une liberté, et c'est l'homme qui, en se reconnaissant libre, ne peut que se reconnaître créé, ce qui est le grand mystère, justement, d'une liberté qui se reconnaît avec reconnaissance comme donnée. Si bien que le signe sacré par excellence, c'est l'homme. Si le signe porte absence et présence, s'il est le seuil qui nous conduit du perceptible à ce qui est au-delà de toute perception, c'est l'homme, c'est le visage de l'homme. Et au fond, il n'est pas d'autre œuvre que l'homme. D'ailleurs, je disais que l'art contemporain ausculte anxieusement la matière pour y voir surgir la forme, ausculte anxieusement le hasard pour y voir surgir le sens, mais, à vrai dire, la jeunesse de l'œuvre, elle n'est pas dans la matière, elle n'est pas dans le son, elle n'est pas dans la pierre. Et tous les exemples que j'ai donnés sont inappropriés, je suis désolé. La jeunesse de l'œuvre, elle est dans le corps. Le lieu d'avènement du sens, d'expression par excellence, c'est le corps. Je tiens avec Alain que la première forme esthétique fut la danse. Pourquoi ? Parce que justement, l'homme est porteur de signes, est sémaphore, porteur de signes. Et s'il y a une genèse à trouver des symboles, du sombre, du clair, du haut, du bas, de la gauche, de la droite, etc., cette genèse, elle est dans notre corps. Songeons, par exemple, à l'origine de la poésie. Peut-on saisir la genèse de la poésie ? Eh bien, des auteurs aussi différents que Rilke, Claudel ou Saint John Peirce nous disent que, avant toute poésie, au point de naissance de toute poésie, il y a la réalité première du rythme. Et que cette réalité première du rythme, elle est inscrite non pas dans les choses, mais dans notre corps, par l'intermédiaire du souffle. C'est le très beau sonnet à Orphée de Rilke, « Respirez, ô toi, invisible poème » d'où « Unsichtbares Gedicht ». Respirez, invisible poème. Le souffle est dans très grand nombre de langues. La première analogie pour l'esprit. Ce aussi par quoi passe la parole. Et dire d'une œuvre qu'elle a du souffle, dire d'une œuvre qu'elle est inspirée, au fond, c'est effectivement la reconduire, non pas donc à ses circonstances historiques de fabrication, mais à la réalité première qui est celle du rythme. Je disais, un son qui suit un son, une tâche qui suit une tâche, Un mot qui suit un mot, ça veut dire la réalité première, c'est le rythme, et le rythme est inscrit dans notre corps par les pulsations de notre cœur, par notre respiration, par la distinction de la gauche et de la droite, par notre destinée sexuelle, etc. Et de telle sorte que l'origine de toute œuvre d'art, c'est ce rythme premier. J'en veux pour témoin ce que dit Saint John Peirce. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur les rapports, par exemple, de Saint John Peirce et de Claudel avec le père Jousse, mais bon, je ne le développerai pas ce point. Au début de Vent, Saint John Peirce évoque le poème comme une immense respiration, un immense bruissement de l'esprit. Dans le texte que je vais lire, vous verrez que peu à peu, le poème est comparé à... Enfin, comparé, le mot est maladroit. Est un arbre qui est secoué par le vent de l'esprit et qui se donne au monde à travers ce vent de l'esprit. C'était de très grands vents sur toute face de ce monde, de très grands vents en liesse par le monde qui n'avait d'air ni de gîte, qui n'avait garde ni mesure et nous laissait, hommes de paille, en lent de paille sur leur air. Ah oui, de très grands vents sur toute face de vivant. Flairant la pourpre, le silice, flairant l'ivoire et le tesson, flairant le monde entier des choses et qui couraient à leur office sur nos plus grands versets d'athlètes, de poètes, c'était de très grands vents en quête sur toute piste de ce monde, sur toute chose périssable, sur toute chose saisissable parmi le monde entier des choses. Et d'éventer l'usure et la sécheresse au cœur des hommes investis, voilà qu'il produisait ce goût de paille et d'aromates sur toute place de nos villes, comme au soulèvement des grandes dalles publiques. Et le cœur nous levait, aux bouches mortes des offices, et le Dieu refluait des grands ouvrages de l'esprit. Car tout un siècle s'ébruitait dans la sécheresse de sa paille, parmi d'étranges désinences, à bout de cosses, de silique, à bout de choses frémissantes, comme un grand arbre sous ses hardes et ses haillons de l'autre hiver, portant l'ivrée de l'année morte. Comme un grand arbre tressaillant dans ses crécelles de bois mort et ses querelles et ses corolles de terre cuite, très grand arbre mendiant qui a fripé son patrimoine, face brûlée d'amour et de violence, où le désir encore va chanter. Alors, je suis désolé, je commente, c'est dommage. Ici, ce qui est évoqué, c'est, au fond, la nausée d'un art mort, l'arbre mort, qui porte le souvenir d'autre chose, très grand arbre sous ses hardes et ses haillons de l'autre hiver. Très grand arbre mendiant, qui a fripé son patrimoine. Ah, patrimoine. Quand ? Bon. Très grand arbre mendiant qui a fripé son patrimoine, face brûlée d'amour et de violence, où le désir encore va chanter. Et voilà que le désir va réveiller l'arbre. Ô toi, désir qui va chanter. Et ne voilà-t-il pas déjà toute ma page, elle-même bruissante, comme ce grand arbre de magie sous les pouilleries d'hiver, vint de son lot d'icônes, de fétiches, berçant d'épouses et spectres de locustes, léguant, liant au vent du ciel, filiales d'ailes et dessins, lait et relais du plus haut verbe. Ah, très grand arbre du langage, peuplé d'oracles, de maximes, et murmurant murmure d'aveugle nez dans les quinconces du savoir. C'est bien ce que nous disait Rimbaud. Il ne faut pas écrire la poésie. Il faut être poète. Je suis né poète. Je me suis reconnu poète. Et au fond, pour celui qui se reconnaît poète, de laisser tomber une œuvre n'a pas d'importance. D'ailleurs, c'est sans doute pourquoi Rimbaud ne s'est guère préoccupé de publier. Puisque le seul livre qu'il a fait imprimer, il n'est jamais allé le chercher. Et il est plus important d'être poète à travers le souffle, à travers le désir, à travers la perception du monde, la transfiguration quotidienne de cette perception du monde, plutôt que d'écrire des bibelots à mettre sur une cheminée Troisième République. En ce sens, c'est bien l'homme qui est créé, je le disais, et qui est le signe par excellence, le porteur de signes. Les rythmes du corps, les gestes, font se déployer le sens. Telle est la parole de Hölderlin que Heidegger détourne en un sens athée. Abusif. Le texte se trouve dans « Que veut dire penser ?» où Heidegger explique que l'homme est celui qui vit en fonction d'une absence, ce que nous avons vu depuis le début de cet exposé, qui fait signe vers une réalité absente, invisible qui fait signe vers un invisible. S'il y a un être au monde, dans le cosmos, qui est invisible, qui fait signe vers un invisible, ce n'est pas nos statues, ce n'est pas nos disques, ce n'est pas nos instruments de musique, c'est l'homme. Alors c'est en ce sens que Heidegger peut dire « Dieu nous manque » dans la lettre à Büchner. Le minimum que je puisse dire, c'est l'homme est manque de Dieu. Il est l'être à qui quelque chose manque. Il s'éprouve essentiellement comme ouverture à ce qu'il n'est pas. Et donc Heidegger développe cette idée en disant « D'une façon générale, si nous sommes nous-mêmes et si nous sommes ceux que nous sommes, c'est seulement en tant que nous montrons ce qui se dérobe. » Et au fond, toute la tentative de l'art est de coïncider avec ce geste de l'homme qui montre ce qui se dérobe, qui est un signe incompréhensible si on ne le comprend pas comme une parole. Cet acte indicateur est notre essence. Nous sommes, en tant que nous indiquons, ce qui se dérobe. Montrant dans sa direction, l'homme est l'être qui montre. L'homme est l'être qui montre. Plus précisément, l'homme n'est pas d'abord homme et ensuite, par surcroît, un montreur. C'est tirer dans ce qui se retire, en mouvement vers lui et montrant par là même le retrait, que l'homme est homme en tout premier lieu. Son essence est d'être un tel montreur. Et c'est là qu'il cite le poème de Hölderlin. Nous sommes un signe vide du sens. Insensible et loin de la patrie, nous avons presque perdu la parole. Nous sommes un signe vide du sens. Insensible et loin de la patrie, nous avons presque perdu la parole. Le texte peut être tiré dans un sens athée ou dans un sens théologique. Il est tiré dans un sens athée, si je comprends, nous sommes un signe vide du sens, de telle sorte que ce signe serait insignifiant. Alors effectivement, si ce signe est insignifiant, toutes nos paroles, comme celles des personnages de « En attendant Godot », deviennent absurdes. Et on pourrait dire alors « Nous avons perdu la parole », au sens où nos paroles sont devenues des choses, nos mots sont devenus des choses, sont enlisés comme des choses. Mais, et je crois que c'est la lecture qui est juste, à la différence de celle de Heidegger, ce texte peut être compris comme au contraire le désir même de Dieu marqué dans notre chair. Nous sommes un signe, nous sommes le montreur, nous sommes un signe vide du sens parce qu'il ne peut pas se prétendre propriétaire du sens, non pas vide du sens parce qu'il n'y en a pas, mais parce que le sens n'est pas une propriété que je puisse précisément m'adjuger, contenir dans mon poème. Le sens, je ne le contiendrai pas dans mon poème, le sens, je ne le contiendrai pas dans la statue, je ne le contiendrai pas dans le tableau, ni dans un coffre-fort, ni dans une église. C'est l'église délire à chaque fois qu'elle se prétend coffre-fort du sens. Nous sommes un signe vide du sens, insensible et loin de la patrie, nous avons presque perdu la parole. C'est-à-dire que la parole ne peut rester vive que dans la mesure où elle oriente d'une présence à une absence, c'est-à-dire à une présence plus forte encore. Le signe oriente vers ce qu'il n'est pas, reconduit à ce qui le fonde. Alors, qu'en est-il de l'œuvre d'art ? Je conclurai en disant qu'il est temps pour nous, il est temps pour chacun d'entre nous, il a toujours été temps pour chacun d'entre nous, d'entendre l'injonction d'Apollon à Socrate. Vous savez que Socrate, dans le temps qui lui a été imparti entre sa condamnation et son exécution, s'est, au grand étonnement de ses amis, consacré à la poésie et à la musique. Il a essayé de jouer de la cithare. C'était un peu tard pour s'y mettre. Et Socrate dit, c'est que j'ai entendu depuis longtemps une injonction d'Apollon qui me disait, fais de ta vie une œuvre d'art. Fais de ta vie une œuvre d'art. Et si l'un d'entre nous pouvait un jour faire, à proprement parler, de sa vie une œuvre d'art, il serait le signe par excellence. Il serait le médiateur par excellence, celui qui nous conduirait à Dieu. C'est ce que dit Malraux dans La condition humaine, lorsqu'il fait parler le peintre Cama. Je vous invite à relire l'entretien entre Clapic et Cama dans La condition humaine, lorsque le peintre dit « Aller du signe à la chose signifiée, c'est approfondir le monde, c'est aller vers Dieu. » Et si ma vie est l'œuvre d'art, alors au fond, elle est, comme le disait Platon, cette liturgie que nous mettons sous le regard des dieux. L'artiste ne devrait pas être ce personnage narcissique préoccupé de ses corps aux pieds ou de ses ruptures amoureuses, celui qui offre au regard de Dieu une liturgie parfaite. Mais au fond, c'est ce que chacun d'entre nous est. Si bien que si vraiment je suis parvenu à faire de ma vie une œuvre d'art, de plus aucune œuvre d'art, je n'aurai besoin. Je vous remercie.
Moi, je réponds aux questions, oui. Mais quand vous voulez, maintenant ou après.
Peut-être une petite pause, si ça ne vous dérange pas. Voilà. Alors, après 10 minutes, un quart d'heure de pause, vous pourrez poser des questions et prolonger comme ça la réflexion. Voilà, avec M. Dumont. Merci beaucoup, à tout à l'heure.